La vie en bleu, Nathalie Rivaud.
9h15, c'est l'heure du dossier du jour, jusqu'à 10h moins le quart. On va s'intéresser à notre sixième sens, à notre flair, à notre voix intérieure, bref, notre intuition qui participe grandement à la prise de décision. Sait-on vraiment comment elle fonctionne, à quel point on doit s'y fier aussi et surtout dans quelle mesure elle est aiguisée? On va en parler avec nos invités ce matin. Bonjour Chantal Montez.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes coach fondatrice du cabinet de recrutement Arcane 2.0 à Charnières-et-Puisaye. Vous êtes coach accompagnatrice et également Le sixième sens, c'est une forme d'intelligence?
Pour moi, c'est certainement la vraie intelligence, celle à laquelle il faut se fier.
C'est aussi ce qui va nous aider à survivre, certainement,
oui,
déjà,
rien que ça. C'est très animal, hein, c'est quelque chose on sait très bien qu'on peut sauver sa vie en ayant beaucoup d'intuition dans l'urgence.
Bonjour Antoine Lécole.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes somatothérapeute à Moneto. Le sixième sens, c'est la survie avant tout, c'est ça, c'est ce côté animal en premier lieu.
Oui, je pense que c'est ça, c'est généré par les fonctionnements inconscients et donc au système limbique reptilien, donc animal, qui nous permet de nous adapter en fonction des stimulations de l'environnement et donc d'avoir des réactions normalement appropriés, qui vont préserver le processus de vie, la vitalité, donc voilà le corps, les organes, et donc participer à la survie oui, de l'individu.
Mais aussi elle va participer à nos choix de vie, on va y revenir avec vous, mais finalement la question qu'on se pose c'est pourquoi la développer si elle est en nous déjà cette intuition?
Parce qu'on ne fait pas assez confiance à cette intuition, on est tellement civilisé et complètement formaté pour suivre des règles très précises qu'on a un petit peu oublié de faire confiance à son intuition, et pourtant c'est certainement celle-ci qu'il faut le plus développer, d'autant plus aujourd'hui.
Antoine ?
Oui, tout à fait. Dans la définition étymologique, c'est regarder attentivement. Alors en latin, mais c'est regarder attentivement. Dans le sens où il y a une notion voilà d'attention et de rapport au monde très direct qui est malheureusement quelquefois faussée par le conditionnement, par notre système de croyances, par les limites que l'on peut se mettre ou le trop de rationalité, non pas qu'il n'y en ait pas besoin, mais la fonction corticale qui nous permet de réfléchir, de rationaliser. Elle peut être perturbatrice de ces processus de survie et de vitalité. Oui.
On est trop pragmatique en fait, c'est ça?
Alors on l'est trop d'un côté, et moi je prône tout le temps le fait qu'il faille l'être et ne pas trop planer, parce que dans une vie aujourd'hui, si on plane de trop, on atterrit durement. Néanmoins, il faut se faire confiance, et lorsque l'on a le sentiment que dans son fort intérieur, il semblerait qu'il faille plutôt faire ceci ou cela, essayer de le faire un peu spontanément. On manque de spontanéité aujourd'hui. On est très conditionné pour être dans la réflexion, dans la cogitation permanente, et on a un peu perdu ce réflexe justement animal qui permet de réagir sainement avec en se faisant confiance dans une intuition totale.
Alors ça veut dire que cette spontanéité elle va se travailler pour la retrouver, Antoine?
Oui, je pense qu'il faut faire justement des allers-retours entre la rationalité et la spontanéité, c'est-à-dire lâcher prise, prendre prise. Les deux sont nécessaires pour s'adapter au quotidien. Quelquefois on a besoin pour prendre certaines décisions de beaucoup de rationalité, donc de connaissances, de savoir, d'expérience, et puis quelquefois on a besoin aussi de laisser aller les processus sans forcément se réaliser de manière pragmatique. D'ailleurs, la plupart des grandes découvertes physiques, chimiques, mathématiques ont été découvertes par des intuitions, c'est-à-dire voilà dans une contemplation de l'instant, de l'environnement, et les processus se font comme voilà une espèce d'illumination. Einstein, la relativité par exemple, voilà, en observant les gratte-ciels, en imaginant les corps tombés, etc. C'est comme ça, c'est pas en faisant des calculs qu'il a découvert la notion de relativité.
Alors justement, le meilleur moment pour lequel vous êtes fié à votre intuition, Chantal, par exemple?
C'est à chaque fois que j'ai osé des trucs qui me semblaient absolument inaccessibles. C'est-à-dire que j'ai eu le fait de me dire, c'est que ça me paraît très difficile, il y a un défi à relever, peut-être n'y arriverai-je pas, mais la passion pour la chose qui m'attirait m'a donné le courage de le faire. Et c'est aussi une espèce de d'équilibre permanent entre oser des choses qui peuvent nous mettre évidemment en danger, mais tout en se disant, si je ne les ose pas, j'aurai des regrets. Or, dans la vie, avoir des regrets, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Donc l'intuition nous amène à nous dépasser souvent, à prendre des risques. Souvent, les proches vont vous dire de ne pas le faire parce qu'ils vont s'inquiéter pour vous, mais il faut se fier à soi. soi et puis foncer si on y croit vraiment. Pour moi, quand on réalise bien les choses, c'est que on y croyait tellement fort qu'on les a réussies. Si on y croit modérément, il ne faut pas se lancer. Vous voyez, s'il y a une pondération par rapport à ça, c'est même pas la peine de se lancer. Il faut y aller vraiment.
Donc la voie soit claire.
Voilà, c'est clair et une très très forte envie qui va conduire avec la passion à réaliser la chose très bien. Parce que ça demande du courage. Hein.
Antoine ?
Oui, je pense que c'est exactement cela, c'est une évidence intérieure. Et l'évidence intérieure, elle est, je pense, à considérer dans sa totalité. Et ça nous permet justement de faire des vrais grands choix de vie, affirmés, assumés, même responsables et même pragmatiques à long terme. Dans le sens où à court terme, on se dit, tiens, ça paraît bizarre de faire ce genre de choix, de changer de carrière, de changer de conjoint. Alors que quelquefois, c'est très très juste. Et c'est d'ailleurs souvent très juste dans le sens où ça vient d'une évidence intérieure où les intelligences corporelles, psychologiques, sociales se mettent en place inconsciemment et nous donnent une ligne de force à suivre. Et je pense que c'est très porteur de suivre cette évidence.
Mais alors justement, comment cette intuition se manifeste? Comment on la travaille? Est-ce que se fier à son intuition, c'est aussi avoir extrêmement confiance en soi? Certainement, ça passe aussi par le développement des 5 autres sens. On va y revenir avec vous, Antoine, l'école somatothérapeute, et aussi quand finalement l'intuition se met au service de l'entreprise, du management. Chantal Montet, c'est aussi une nouvelle forme d'accompagnement. Vous êtes coach, fondatrice aussi du cabinet de recrutement Arcan Conseil 2.0 à Charnières et de Puisaye. Vous nous accompagnez ce matin sur France Bleu, serre tous les deux jusqu'à 10h moins le quart.
La vie en bleu, l'émission indispensable.
La vie en bleu s'intéresse à l'intuition aujourd'hui, qui participe à la prise de décision. Comment la reconnaître, comment s'y fier, également à quel point. On en parle avec nos invités, Chantal Montez, coach fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil 2.0 à Charnières et de Puisaye, avec vous Antoine Lécole, somatothérapeute. Alors vous le disiez, et vous parlez d'Einstein, ça tombe bien, puisque apparemment l'intuition elle passe, elle se manifeste dans le corps aussi à ce moment quand on la reconnaît. Et il disait aussi qu'il s'est senti physiquement dans un état très particulier au moment de découvrir la théorie de la relativité. Ça veut dire qu'elle jaillit en fait de nous, cette intuition?
Oui, je pense qu'elle est liée aux différentes connexions des processus, donc corporels, donc les 5 sens que l'on connaît normalement tous, et qui ensemble vont permettre de vivre une expérience plénière, c'est-à-dire complète, totale, qui ressemble aussi à des états de transe ou de méditation, où on va être dans une forme de créativité, et une créativité libre, disons, qui, par ses associations, quasiment toutes seules, hein, quand on observe le fonctionnement du cerveau, on se rend compte que, en fait, la part de volonté, et notamment de rationalité, intervient, mais assez peu, sur la plupart de nos grands processus de vie. Donc, le fait de vivre une expérience totalisante, plénière, fait penser à des états particuliers.
Mais on va le sentir, ce bouillonnement, en fait.
Oui, ça, des notions de contemplation, de satisfaction, d'excitation aussi. Hein, quand on a une idée comme ça qui se propose comme une évidence, c'est extrêmement plaisant, c'est extrêmement remplissant. On s'en remplit, et même au niveau émotionnel, on peut très rapidement être dans la joie, dans le plaisir, même dans le frisson. Hein. C'est en général très agréable d'être au contact de ses intuitions.
Et quand une fois qu'on y a goûté, on veut la retrouver aussi certainement. C'est là où ça commence aussi à émerger, où ça
c'est
finit à se travailler. C'est le danger.
C'est le danger
aussi, peut-être, Chantal.
Parce qu'on peut s'ennuyer très vite dès qu'on n'est pas dans la créativité ou dans le fait de se lancer sur une nouvelle idée. On le voit justement avec ce qu'on évoquait, les personnes qui partent à la retraite, qui étaient très passionnées par leur métier ou leur activité. Hein, ça peut être n'importe quel type d'activité, et qui s'arrêtant, n'ayant pas eu de passion à côté, sont en train de se demander comment ils vont avoir une suite de vie. Et là, il faut vraiment qu'ils aient une idée qui jaillisse ou qu'on les aide à avoir cette idée pour retrouver une passion. Sinon, c'est l'ennui qui guette, et il n'y a rien de pire que l'ennui.
L'intuition, elle se met au service du management en entreprise maintenant.
Bien sûr, de plus en plus. On y croit davantage. Avant, c'était très pragmatique, fonctionnel. Enfin, c'était vraiment du chiffre d'affaires à réaliser, et puis on n'a pas d'état d'âme. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le fait d'écouter ses collaborateurs était devenu essentiel. Le fait de reconnaître leurs valeurs également et de le leur dire, parce qu'il y a ce manque de reconnaissance dans trop d'entreprises qui fait que les gens n'osaient même plus faire part de leurs idées, de peur de ne pas être dans la ligne de l'ensemble de l'entreprise. Donc ça s'est amélioré parce qu'on a bien compris que chacun avait besoin d'être écouté et entendu. Et donc, on sait aussi, si on a parlé de brainstorming, c'est ça aussi. C'est-à-dire que chacun a des idées, faut-il les mettre ensemble. Donc c'est du collaboratif, hein. On sait qu'aujourd'hui on ne parle que de ça. Mais c'est très bien parce que ça veut dire que les entreprises aujourd'hui sont à l'écoute et les intuitions de chacun peuvent être une source d'intérêt réel.
Oui, notamment pour apprendre à saisir des opportunités.
Tout à fait. Bah, chacun a tout à coup une idée lumineuse et puis ça peut aider l'ensemble. Donc pourquoi ne pas faire confiance, même à quelque chose qui semble un petit peu farfelu, hein. C'est pourquoi pas.
Qu'est-ce qui pourrait freiner justement à l'intuition? Ça va être le carcan dans lequel on est, la société,
oui, c'est
la façon dont on est formaté.
C'est le côté fou, c'est le côté dangereux, c'est oui. Le côté impromptu.
Sans limite.
Sans limite, absolument.
On a l'impression, voilà, quand on est dans des processus d'intuition, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Alors qu'il y a, il y a des limites. C'est-à-dire que rien que de confronter une intuition au réel, trouve tout de suite ses limites. Si vous vous laissez aller dans l'intuition à court terme, par exemple pour vous sauver la vie, vous voyez très vite les limites. Vous avez intérêt en tout cas. Par contre, à long terme, c'est vrai qu'une intuition que l'on projette, par exemple, bah voilà, un projet d'entreprise ou un projet personnel, c'est important aussi de la confronter après au réel. Et donc, si c'est sur le long terme, de après remettre de la rationalité et du pragmatisme. Mais souvent, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à être déjà dans la rationalité et le pragmatisme, et donc de mettre trop de limites. Ce qui fait qu'on est contenu, alors que l'idée, ça va être après de contenir l'intuition, mais de la laisser émaner, disons.
Ouais, souvent, les gens vous disent, quand on les reçoit, que je vais pas y arriver. Vous voyez, ils voudraient bien, mais c'est trop difficile, j'ai pas de valeur, je ne sais pas faire. Pourtant, il me semble que j'aimerais faire ça, mais il y a une limite qui se crée. Alors, manque de confiance en soi, bien sûr. Et puis, ça paraît énorme quand on débute quelque chose. Là, je parle toujours de projets, par exemple, de vie professionnelle. C'est pas qu'ils ne voudraient pas, c'est qu'ils se sentent limités. Et puis après, il y a le côté aussi financier, c'est-à-dire que de quoi est-ce que je vais vivre? J'abandonne un poste à Paris bien rémunéré. Je le vis, moi. J'ai chez moi des gens qui ont ce schéma-là, très bien rémunéré, qui donc se lancent dans un autre projet de vie, qui fait que pendant un certain temps, ça va être extrêmement tendu sur le plan financier. Comment faire? Est-ce que je vais pouvoir? Vous voyez, il y a des limites aussi très très concrètes. Hein. Donc, il faut, là, dans ces cas-là, se faire confiance et dire faut que je trouve de l'aide de partout. Dans toutes ces aides aujourd'hui que l'on donne aux uns et aux autres, en subventions de toutes sortes qu'on ne connaît pas. Donc, creuser.
Et s'autoriser aussi le droit à l'erreur, de fait.
Surtout, bien sûr.
Et on va y revenir, que retenir de ces échecs. Et on va s'intéresser aux cinq autres sens, notamment le toucher à travers le massage pour apprendre à reconnaître ses intuitions, mais aussi ses freins, ses limites. Avec vous, Antoine Lécole, somatothérapeute Chantal Montez, fondatrice du cabinet de recrutement à Arcane Conseil 2.0. Alors, la première impression est-elle toujours la bonne? On parle de le milieu de l'entreprise. Alors, le cas concret, c'est quand même l'entretien d'embauche. Ou le CV aussi. On va y revenir d'ici quelques instants.
D'accord.
Chantal, je vous laisse le temps de réfléchir. C'est à suivre et c'est le dossier du jour.
Le magazine France Bleu jusqu'à 11h.
L'Avion Bleu s'intéresse à l'intuition aujourd'hui. Il a développé à comment son fonctionnement également et puis ses limites avec Antoine Lécole, somatothérapeute, Chantal Montez, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil 2.0 à Charnay-Aurède-Puisaye. Antoine, l'intuition, savoir s'y fier, savoir confiance en soi.
Oui, je pense, puisque elle est souvent liée justement aux sensations. C'est-à-dire que quand on se sent plutôt en confort, dans le plaisir, on va avoir tendance justement à renforcer notre aplomb corporel, se sentir voilà dans l'ici et maintenant. Et donc, elle est essentielle à la confiance, à la structure. Voilà, ça nous permet en tout cas d'être créatif. Pour être créatif, moi je le dis souvent en séance, pour être créatif, il faut de la structure, dans le sens où il faut se sentir en sécurité. Et à partir du moment où on se sent en sécurité, on peut être créatif. Et en général, c'est un cycle vertueux. C'est-à-dire que la confiance encourage l'intuition, l'intuition encourage la confiance, et c'est gagnant-gagnant.
Alors cette intuition, elle se développe aussi autour des sens, vous l'avez dit. Le sixième, donc il y en a, ça induit qu'il y en a cinq autres aussi, et on les a. Et notamment le toucher.
Oui.
Dans votre pratique?
Oui, tout à fait. Alors le toucher, de manière individuelle déjà, on va l'utiliser. C'est-à-dire quand il y a une douleur, quand il y a un inconfort ou quand on a besoin de réconfort, on va de manière instinctive, voilà, poser la main sur soi ou aussi pour se faire du bien, pour se rassurer, on va voilà se faire une caresse ou alors pour faire du bien et rassurer, pareil, proposer un geste. Et souvent là, on n'est pas dans la réflexion. On se dit pas tiens, je vais la caresser comme ça, lui poser la main, la serrer dans mes bras. En général, on le fait de manière très instinctive. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là, dans ces moments de vie, que l'on sent voilà toute la joie qui peut être partagée dans cette intuition du moment, notamment par le toucher. Et ça permet aussi, moi qui fais du massage, de soulager énormément le fait de se laisser aller à l'intuition, plutôt que de sortir un protocole. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des douleurs de nuque, par exemple, on pourrait se dire bah voilà, je vais répéter les mêmes gestes parce que les douleurs de nuque sont toutes les mêmes. Bien non, il y a quelquefois besoin de plus de douceur, besoin de plus de force, plus de profondeur, plus de légèreté. Et c'est, je pense, l'intuition qui permet justement de doser le bon geste pour que ce qui est reçu et ce qui est donné corresponde à la vérité de l'instant.
Mm-hmm. Et voilà. Aussi et aux besoins, en tout cas, de la personne qui va être sous vos mains.
Bah, la vérité de l'instant, en général, elle se fait par cette harmonie-là, c'est-à-dire la capacité du thérapeute à trouver le bon geste pour le besoin de la personne qui reçoit.
Quand on met en pratique l'intuition au quotidien, Chantal Montez, notamment dans le monde de l'entreprise, ça signifie voilà avoir de l'instinct, avoir du flair, et notamment voilà pour manager. Est-ce que la première impression est toujours la bonne?
Non, c'est très catégorique parce que les fameuses 30 premières secondes, oui, c'est vrai, on a une impression très forte à laquelle on peut se fier. Mais je me suis aperçue au cours de mon métier que je fais depuis très longtemps que si on laisse parler les gens, bah quelquefois l'impression varie, c'est-à-dire que on s'était fait une impression de quelqu'un qui était désagréable, très tendu, pas forcément presque agressif. Puis si on le met en confiance, curieusement, la personne devient quelqu'un d'extrêmement agréable. Donc se fier à son instinct et à sa première impression, oui, mais laisser peut-être aussi l'autre en face s'exprimer de façon à pouvoir revoir sa position et peut-être s'apercevoir qu'on avait un peu jugé vite. On en juge souvent très vite. Mmh. Et je crois qu'il faut arrêter de juger rapidement. Les gens se laissent aller, le lâcher prise que vous évoquiez, à partir du moment où on les met en confiance. Donc si vous êtes dans l'agressivité, dans le recrutement, vous avez des échanges qui sont où les anciens mettaient en condition, en situation les candidats. C'est pas une bonne façon de faire, parce qu'à quel moment dans une société on va vous envoyer des questions en tous les sens et vous mettre à mal comme ça. Donc il faut être un peu plus relax et puis que les gens puissent s'exprimer.
Et ça veut dire que les entretiens d'embauche ont changé aussi?
Ah oui, beaucoup. Oh là là. Il y a même des robots maintenant qui prennent le relais. Hein. C'est-à-dire que vous avez un appel, vous croyez avoir affaire à une personne et en face de vous, vous avez un robot qui donc va vous poser des questions. Ça semble tellement bien fait que c'est de l'intelligence artificielle. Ouais. Hein. Et donc ça semble tellement bien fait que les gens vont répondre et puis ça va s'enchaîner comme ça. Et alors là, il n'y a pas d'intuition, hein. C'est simplement rentrer dans des cases. Donc d'un côté, vous avez la mise en avant de l'intuition de plus en plus et de l'autre côté, vous avez la robotisation qui, elle, reprend ça. Donc vous voyez l'antinomie qu'il peut y avoir entre les deux et trouver sa place là-dedans pour les gens plus jeunes, c'est pas facile. Vraiment pas facile.
Donc ça veut dire un accompagnement aussi, un spécifique, oui, pour préparer ces...
Oui, parce que il faut les préparer au fait qu'ils puissent avoir deux, trois interlocuteurs entre le cabinet de recrutement et le robot avant le cabinet de recrutement. Chez les grands comme Michael Page et autres, ils prennent plus le temps que les consultants appellent. Donc c'est fait par des plateformes hein, qui sont même pas des humains sur des plateformes à Pétaouchnock. Hein. C'est même pas ça, c'est vraiment de la robotisation avec des prises de rendez-vous très très pondéré, posé, etc., mais qui ne ressemble à rien parce que on peut même pas s'exprimer réellement avec le robot. On va convenir d'un rendez-vous, c'est tout. Hein.
Alors, parce que là, c'est l'intuition dans le cas du manager, mais dans, oui, le cas du candidat aussi. Comment la laisser aller, cette intuition? Comment
Là, dans ce cas-là, il faut les préparer quand ils, ouais, viennent me voir, à ce qu'ils puissent d'abord avoir cette étape-là à passer, qui n'est pas facile, et donc à être néanmoins très détendu, parce que pour la suite, il y aura un humain en face. Mais vous voyez, il y a aussi tout ce revers aujourd'hui, que l'intuition, certes, mais qui se heurte sans arrêt à des événements qui font que elle est mise à mal, cette intuition.
Hein. Et on a de moins en moins besoin de son intuition, finalement, ou...
Si, de plus en plus, mais...
Ce qui est paradoxal, en fait.
Bah, complètement, ouais. C'est ce que j'essaye de dire, c'est que de plus en plus on en a besoin, il faut s'y fier, et puis bah, si le robot ne comprend rien, il faut essayer de trouver par le biais de LinkedIn ou je sais pas quoi, le vrai interlocuteur, passer des ponts...
Être créatif.
Et ça rejoint ça. Ouais, et on trouvera que le candidat est fabuleux parce qu'il a été malin, qu'il a trouvé le bon interlocuteur. Oui. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on est effectivement dans des cadres terribles, des cases terribles, avec le fait d'avoir accès à Internet et que beaucoup de gens ne soient pas encore à l'aise avec ça. Il faut être plus malin que ça et puis revenir vers l'humain.
Oui, la créativité et de l'humain, Antoine, c'est ça?
Exactement, oui, tout à fait, c'est ça. Être créatif pour pouvoir s'adapter. Mm-hmm. Et donc, justement, l'intuition, c'est un formidable moteur pour pouvoir, par exemple, voilà, vous avez affaire à une intelligence artificielle, vous avez besoin d'être recruté, et adressez-vous directement au recruteur. C'est une prise de risque, ça peut ne pas fonctionner, par contre, ça peut être tout à fait valable pour vous permettre de vous positionner, de vous mettre en valeur, et même de prendre du plaisir justement à transgresser ce qui semble établi.
Oui, c'est
établi.
Ça, bien sûr, oui, tout à fait.
Et c'est malin, les gens apprécient, les gens malins, surtout si on le fait en y mettant les formes. Oui. Vous voyez, évidemment, il faut le faire avec beaucoup de diplomatie.
Hein, tant qu'à faire, on casse pas toutes les portes.
Voilà.
Restez avec nous, La Vie en Bleu continue. L'intuition aujourd'hui en question avec Chantal Montez, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil 2.0 à Charnières et Puisé, Antoine Lécole, somatothérapeute à Moneto. Vous êtes avec nous encore pendant une dizaine de minutes.
9h-11h, le magazine indispensable.
C'est La Vie en Bleu, le dossier du jour ce matin sur France Bleu Auxerre. Pourquoi peut-on faire confiance à son intuition? Comment également au quotidien s'exercer, l'aiguiser? On en parle avec Chantal Montez, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil 2.0, avec Antoine Lécole, somatothérapeute. On le disait en préambule, savoir se fier à son intuition, c'est aussi s'autoriser d'avoir tort et s'autoriser l'échec aussi,
bien
de
sûr,
reconnaître.
Bien sûr. Alors il y a deux notions, c'est qu'aux États-Unis, l'échec est vu quand on le dépasse comme étant une qualité chez un individu. En France, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que vous avez eu un échec, vous êtes resté un peu sur la touche un certain temps, et si on lit votre CV pour revenir à l'entreprise, malheureusement, c'est mal vécu en France. C'est en train d'évoluer. Parce que quelqu'un qui a décidé de faire le tour du monde pour justement apprendre beaucoup de choses et prendre ce risque, c'est quelqu'un d'intéressant pour une entreprise. Donc, il faut vraiment aujourd'hui ouvrir ses chakras, hein, et se dire que le CV avec des expériences de 10 ans, c'est un peu dépassé, et que les gens aujourd'hui, moi, les CV que j'ai de gens de Bac plus 5 et autres, c'est 2 ans hein, dans une entreprise. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements. Et justement, parce que ces gens-là ont suivi leur intuition. À un moment donné, ils en avaient assez d'être dans tel ou tel schéma. Ils ont eu envie de faire autrement. Et puis, peut-être leur vie privée a-t-elle aussi conduit à amener ce genre de changement. Et il faut que les entreprises le comprennent. Ce n'est pas de l'instabilité.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Non. Ça peut être interprété
C'est vécu, c'est encore perçu. Pour les chefs d'entreprise d'un certain âge que je côtoie, c'est encore perçu comme de l'instabilité. Alors, il faut évangéliser sur le sujet en expliquant que ce n'est pas forcément de l'instabilité. Il faut faire la part des choses, ça peut en être. Hein. Mais que c'est aussi le goût de la recherche d'une nouvelle expérience pour en plus, après, apporter à l'entreprise bien davantage. Donc, ne pas être là encore dans le jugement.
Oui, de la polyvalence, de l'adaptabilité.
Tout à fait, bien sûr. Quelqu'un qui a fait un tour du monde et qui s'est débrouillé sac à dos pour tout affronter, bah dans l'entreprise, il sera automatiquement performant parce qu'il aura des solutions là où d'autres n'en auront pas.
Mmh. Antoine, ouais, s'autoriser le droit à l'erreur, à l'échec aussi, qu'est-ce qu'on en apprend de ces situations?
Bien, en fait, la problématique souvent, c'est de confondre intuition et jugement. C'est-à-dire souvent, l'intuition est associée à un jugement, alors que l'intuition, c'est une vérité de l'instant, et l'interprétation que l'on en fait devient un jugement. Et quelquefois, le jugement est valable dans le sens où il est cohérent, on l'a pris dans une totalité, c'est-à-dire qu'on a fait l'aller-retour entre soi, entre l'autre, et puis on a posé un jugement. Mais par contre, il faut laisser le temps. Tout à l'heure, on parlait par exemple de stress. Quelqu'un, vous avez un interlocuteur qui stresse. Quelquefois, l'intuition vous montre que oui, voilà, il y a une tension, il y a un stress. Par contre, elle n'est pas en train de vous dire vous en êtes responsable ou il en est responsable. C'est qu'il y a quelque chose qui génère un état particulier. Donc, elle vous permet de traduire l'instant. Après, c'est ce que vous allez en faire qui va aussi devenir très important. C'est-à-dire comment vous allez la considérer, comment vous allez l'intégrer, la comprendre et puis aussi vous familiariser avec. C'est-à-dire vous faire confiance au point de eh bien d'en faire un outil un peu comme un scanner, hein, un scanner quotidien, donc pour vous déjà, voilà, scanner vos intuitions à l'intérieur de vous, et puis scanner l'intuition que vous avez des autres, de votre environnement, et avec toutes ces informations, en règle générale, la réflexion devient aussi de plus en plus fluide. Ce qui à la base était un jugement négatif devient aussi, se transforme dans quelque chose de beaucoup plus positif.
Oui, il y a l'intuition positive et puis il y a le mauvais pressentiment aussi, cette petite voix qui va toujours être là pour nous freiner.
Ça, il faut s'en méfier parce que les mauvais, enfin les pressentiments sont souvent liés à des peurs de l'échec, au fait d'être tenté par quelque chose qui serait autre chose justement, mais qui fait peur. Donc, on va se convaincre que tel ou tel signe qu'on a reçu, hein, le feu n'est pas passé au vert au moment où on arrivait, vous voyez, toutes ces choses-là, va conduire à prendre la décision de ne pas faire parce que, évidemment, le pressentiment arrête. Et ça, c'est vraiment le pire qu'on puisse imaginer parce que on se freine tout seul. On n'a vraiment même plus besoin des autres pour vous dire de ne pas faire. On se freine tout seul. Donc, se faire confiance, là encore.
Oui, c'est Antoine, vrai, c'est ce qu'on appelle de la pensée magique. C'est-à-dire qu'on va associer des événements, des informations à un vécu intérieur et on va trouver des liens qui, en fait, n'en ont pas. Il n'y a pas de lien entre voilà le fait qu'on arrive là et le feu passe au rouge. Non, c'est simplement que le feu passe au rouge régulièrement.
C'est ça,
et que il passe aussi au vert. Mm-hmm. Et c'est vrai que, quitte à avoir des croyances et des formes de pensée magique, autant qu'elles soient positives. Parce qu'à la limite, là, au moins, elles vous permettent...
Moi,
j'adore la méthode Coué. Vous savez, la méthode Coué, c'est un peu basique, hein, mais c'est quelque chose qui fait avancer parce que tout va bien, j'y vais. Enfin, on connaît bien la petite chanson, hein, je vais bien, tout va bien. Bah oui, ça aide énormément.
Ouais, alors, ça va être, on va commencer par ça. Ça pourrait être un entraînement du quotidien, finalement.
Oui, bien sûr. Bah, le fait de positiver dès qu'on a une pensée négative, le fait de se dire, est-ce que je pourrais pas penser aussi à tout ce qu'il y a de bien dans ma vie? On oublie de faire cette espèce de retour en arrière et de se dire, alors c'est facile de dire actuellement il y a tellement de malheur sur la terre, il suffit d'y penser, c'est un peu facile, mais en même temps en règle générale si on se penche sur les qualités de nos vies, il y en a beaucoup.
Oui, Antoine.
Mais quand on vit quelque chose de désagréable, quelquefois rien que le fait de lui laisser la place, de se laisser vivre cet instant et de comprendre aussi pourquoi il est là, qu'est-ce que les sensations désagréables, pour la peur, la tristesse, qu'est-ce que ça vient nous dire à ce moment-là, la colère. Et en général, c'est tout à fait juste à ce moment-là. Et puis la considérer, c'est aussi déjà commencer à en sortir. Parce que de toute façon, un état désagréable dure, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on va penduler, on va osciller entre de l'agréable, du désagréable, et se laisser le temps de vivre quelque chose de négatif, c'est aussi un bon moyen déjà de le transformer en quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus accueillant en tout cas avec soi.
Oui, de finalement de réclamer un peu d'indulgence par rapport à ce qu'on avait vu.
Oui, on s'aperçoit que souvent, quand on a une série de mauvaises choses qui se produisent, on se sent, on a vraiment des états d'âme, ça va pas fort. Il suffit qu'il y ait une petite chose de positive et curieusement, on
ça
repart. Mais
reste,
alors vraiment, comme si tout ça avait été abandonné et qu'on avait rêvé ces mauvaises choses. Donc ça tient à un fil et c'est souvent aller le chercher qui permet de passer le cap. Parce qu'on est tous par moments, alors c'est souvent de la fatigue, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une usure même physique, une fatigue physique, vous fait penser que psychologiquement, vous n'allez pas bien. Et le fait de se reposer, de s'accorder du temps un petit peu, de prendre le recul, le fameux recul salutaire, permet aussi de passer le cap.
Bah justement, voilà, maintenant, vous le savez, comment accueillir ces intuitions, les travailler, comment vous y fier également. On vous a donné quelques sujets de réflexion avec Antoine, l'école somatothérapeute à Moneto, l'espace bien-être Somatera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup Nathalie.
À très bientôt. Chantal Mantez, coach, fondatrice du cabinet de recrutement Arcane Conseil 2.0 à Charny Auray de Puisaye. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt.
Merci Nathalie, à bientôt.
La vie en bleu continue, on est ensemble jusqu'à 11h ce matin. Les couteaux à l'honneur avec François Gouverneur, spécialiste des arts de la table, la cuisine et la gourmandise bien évidemment, avec Gauthier Pajonas, c'est à suivre. C'est l'heure de jouer au 03 86 52 23 23. Nous avons le plaisir de vous offrir deux invitations pour le match AGIA Niort. Pour soutenir l'AGIA, c'est ce vendredi, c'est à la Baie des Champs, aux invitations à gagner au 03 86 52 23 23. Question géographie aujourd'hui. Bon, non, mais vous inquiétez pas, Gauthier, faites pas la tête. Alors, on va s'intéresser à la ville de Niort, les chamois niortais. Alors, les chamois, c'est pas parce qu'il y avait des chamois, les petites, les animaux, vous savez, des alpages.
Ah oui, non, non.
Rien à voir. Non, non, c'est parce qu'ils tannaient le cuir et tout ça, voilà. À Niort, c'est pour ça. Bref, c'est pas ça la question. Mais dans quel département se trouve cette ville ?
Ah, mais bien sûr !
Ah ouais !
Niort, la capitale des assurances avant. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était ça dans
ah
le
bon
temps.
Ah oui. Bon, bah,
la capitale des appuis. Il y avait toutes les sociétés d'assurance, elles étaient à Niort.
Ah
mais
bon,
ça a dû changer.
Bon, alors, est-ce que c'était dans les Deux-Sèvres ou dans la Haute-Vienne ?
On n'est pas loin en tout cas.
03 86 52 23 23. Si vous le savez, vous tentez votre chance et vous jouez ce matin avec nous. Pour repartir avec vos deux invitations pour le match AGIA Niort, la commune de Niort se trouve en Deux-Sèvres ou en Haute-Vienne. Si vous le savez, vous jouez. Bonne chance. C'est la vie en bleu et vous jouez avec nous ce matin pour tenter de repartir avec vos invitations. Pour le match à Gianior, Corinne est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous nous appelez d'où, Corinne?
De La Chapelle.
Bon, comment ça va aujourd'hui?
Très très bien.
Un peu mouillé quoi?
Non, non, ça va.
Même pas, quand même. Même pas. Ben, vous avez de la chance parce qu'ici ça pleut, hein, je peux vous dire.
Ici aussi, mais bon, c'est bien quand même, il en faut.
Ah bah oui, vous aimez la pluie. Bon, et ben il en faut aussi, exactement.
Exactement.
ma chère Corinne, il fallait répondre à cette question. Dans quel département se trouve la commune de Niort?
Les Deux-Sèvres.
Et ben c'est la bonne réponse. Vos invitations pour le match, c'est gagné ce matin. Merci. Félicitations.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très bonne journée.
Merci également.
Et au plaisir de vous recevoir ici en studio sur France Bleu Auxerre, puisque c'est aussi l'autre cadeau que vous venez de remporter, participer à une de nos émissions, découvrir l'envers du décor, tout comme Jacques et Michel qui sont avec nous aujourd'hui, leurs petits-enfants. Voilà, d'accord ?
Merci beaucoup, madame. Merci.
Et ben, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt.
La vie en bleu continue, on est ensemble jusqu'à 11h.
Bienvenue dans La vie en bleu.
La vie en bleu, c'est le magazine de votre quotidien sur France Bleu Auxerre. Bonjour Gauthier Pajonard.
Bonjour Nathalie.
Comment ça va?
Bah ça va bien.
Alors avec vous, c'est la gourmandise, c'est le plaisir.
Évidemment, nous allons parler en ce jour d'un mets exceptionnel qui est la sole, un joli produit de saison. Et en plus, il y a même un couteau qui lui est dédié à cette sole.
Ah bah ça tombe bien, on va parler couteau aujourd'hui.
Non.
Si, bah si, la vie est bien faite. François Gouverneur, bonjour.
Bonjour.
La maison Gouverneur, spécialiste des arts de la table. Alors le couteau, c'est votre partie à vous, à la boutique. Alors un couteau qui a traversé les époques, c'est la marque Laguiole. Bonjour Jacques Brugier.
Bonjour.
Alors déjà, petite question de sémantique, on dit Laguiole, Laguiole?
Alors on dit plutôt Laguiole, puisque c'est un nom qui est issu de l'Occitan, avec des origines plus ou moins inconnues, on va dire, en termes de toponymie. Par contre, on dit plutôt Laguiole quand on est Aveyronnais, ou Laguiole si on souhaite le prononcer un petit peu à la française.
Donc, et on l'a entendu, ce petit accent voilà. Aveyronnais avec vous aujourd'hui. Vous nous accompagnez pour nous raconter l'histoire de ces forges, la qualité aussi de vos couteaux. C'est aussi la lame, mais c'est aussi le manche. Et puis, la façon dont on les entretient avec vous, François Gouverneur, ça fait quand même un très très beau programme aujourd'hui. Vous en avez un, vous?
Mais
couteau, avec vous qui vous accompagne, Gauthier.
Oui, alors, Jacques ne va pas être content. Moi, c'est un Opinel.
Ah.
Voilà, moi, j'adore l'Opinel. J'en ai un sur moi, ainsi qu'un couteau suisse qui sert à tout. Et on va le rappeler quand même, Nathalie, que François a fait une série spéciale de couteaux, des couteaux de La Vie en Bleu.
La Vie en Bleu, et on n'est pas peu fiers, effectivement, de les avoir. C'est vrai.
Absolument.
Alors, restez avec nous. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 11h sur France Bleu.
9h-11h. Le magazine indispensable.
La vie en bleu, ce matin, autour de la table et des arts de la table et des couteaux. Les couteaux sont à l'honneur, et les forges Laguiole également avec vous, Jacques Brugier. Vous êtes avec nous pour nous présenter donc ces forges, cette marque aussi emblématique de du savoir-faire aussi français. Pourquoi finalement, quelle est l'histoire des forges Laguiole, hein?
Alors, Forges Laguiole est une entreprise qui existe depuis 1987, qui a été en fait, je dirais, l'artisan du renouveau du Laguiole dans les années 80, puisque la fabrication avait disparu de Laguiole pendant quelques décennies. Et c'est une entreprise qui est une manufacture en fait intégrée, qui emploie aujourd'hui 95 salariés, intramuros, qui est également propriétaire d'une autre coutellerie dans le Périgord, qui s'appelle la coutellerie Nontronaise, qui fabrique un autre modèle de couteau. Le groupe Forges de Laguiole aujourd'hui emploie environ 120 personnes et produit entièrement ses couteaux in extenso sur place à Laguiole. Donc
et tout ça dans l'Aveyron.
Exactement.
Et non pas, parce qu'il y a eu un problème aussi avec les couteaux Laguiole à une époque, il y avait eu des plagiats notamment qui venaient de Chine.
Alors, le Lyol est un modèle de couteau. C'est un modèle de couteau, donc il n'y a pas, si vous voulez, de garantie qu'il soit réellement produit à Lyol, à l'exception, je dirais, de s'assurer que votre couteau est bien issu d'une entreprise lyolaise qui va fabriquer son couteau sur place, alors, ce qui est le cas de Forge.
Quelle est la particularité alors de ce Lyol alors ?
Alors, Forge de Lyol a la particularité, depuis 1987, d'avoir voulu refaire entièrement son couteau sur place avec des laitons français, des aciers français. L'acier T12, par exemple, qui est monté sur nos couteaux de poche, est un acier qui est produit en exclusivité par les aciéries de Bonpertuis dans l'Isère pour le groupe Forge de Lyol. Donc, on retrouve cet acier, le T12, qui est un acier très performant, forgé à chaud, uniquement sur nos marques, c'est-à-dire sur le couteau Nontron, sur le couteau Forge de Lyol et sur le couteau de la marque Le Couteau de Lyol.
D'accord. Un couteau qui a une forme particulière ?
Alors, c'est un couteau qui a la forme essentiellement du Lyol tel qu'on la connaît.
Avec l'abeille, alors le...
Alors, l'abeille ou pas.
Ou pas, hein,
puisque
d'accord.
On avait fait, en 2009, on avait fêté le centenaire de l'abeille, puisque de 1828 à 1909, il n'y a jamais eu d'abeille sur un couteau Lyol. Par contre, c'est une forme, je dirais, la forme actuelle, on la doit à M. Calmels, Jules Calmels, qui était un coutelier qui s'est installé au début du 19e siècle, en 1829. Et en fait, l'abeille aujourd'hui est reconnue comme un des attributs du Lyol.
Alors comment, parce que vous le disiez, il y a les vrais Lyol, les faux, comment on va les reconnaître finalement, si ce n'est parce qu'ils soient gravés, sérigraphiés peut-être aussi ?
Alors sur le plan juridique, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux Lyol, puisqu'en fait, si vous voulez acheter aujourd'hui avec certitude un Lyol de Lyol, il va falloir vérifier et s'assurer que la marque de votre couteau est bien une marque produite à Lyol. Ce qui est le cas, bien sûr, de Forge de Lyol.
L'acheter chez des vrais professionnels, comme la Maison Gouvernet, par exemple.
Et je tenais juste à préciser que vous avez la chance, à Auxerre, d'avoir une maison comme la Maison Gouvernet. C'est une vraie chance aujourd'hui d'avoir des magasins comme celui-ci, où on peut trouver des tas de choses avec des gens derrière pour vous conseiller et vous proposer des marques de qualité.
Des connaisseurs, des passionnés.
C'est vrai.
Effectivement, ouais. Puisque le couteau, la coutellerie, c'est l'histoire de votre famille, François.
Voilà, depuis les années 35, on est là à vendre des couteaux.
Mais pas que des couteaux.
Non, à la base, on vendait que des couteaux et puis on s'est diversifié pas mal.
Alors, comment on part du produit brut à arriver à un couteau ? Comment on fabrique un couteau ?
Alors, c'est beaucoup d'opérations. C'est-à-dire qu'on part déjà de ce qu'on appelle des tôles, qui sont des profilés, si vous voulez, d'acier qui viennent des aciéries Bonpertuis, dans l'Isère. On va, à partir de ces tôles qui font, je dirais, quelques centimètres de largeur et 3 mm d'épaisseur, on va découper des crampons. Ces crampons de lame, ensuite, ils vont subir un traitement thermique complexe. On va les forger à chaud à 350 tonnes de pression, à 1000 degrés. On va ensuite faire ce qu'on appelle un recuit dans un four fermé. On va faire ensuite une trempe à l'huile et on fera un revenu. Une simple lame d'un couteau de poche comme vous avez là devant François, c'est une lame qui requiert 20 opérations. Donc c'est un travail complexe qui requiert des savoir-faire, des outillages et des compétences.
Alors c'est justement ce que vous êtes venu nous expliquer ce matin. On va voyager donc au cœur des forges Lyol. On va savoir aussi s'en occuper de ces couteaux d'exception parce que il y a les couteaux du quotidien, mais il y a aussi des couteaux de collection pour les véritables passionnés. C'est ce que vous êtes venu nous montrer aujourd'hui, Jacques Brugier, François Gouvernet. Et le couteau donc consacré au filet de sol, c'est ça ? Il y a un couteau.
François va nous l'expliquer. C'est quoi un couteau ? Ce couteau qui a comme nom le filet de sol.
Alors voilà, le couteau filet de sol, c'est un couteau de cuisine, la lame, elle fait environ généralement 17 cm, très souple, pas très large la lame, et ça permet de faire des filets de sol, et puis aussi tout ce qui est filet de truite, de perche, des petits filets comme ça.
Voilà, de travailler des filets de poissons délicats, même le turbo aussi,
voilà,
et le
ouais.
Bar. Voilà.
Ben justement, on va en parler de la sole, ce sera d'ici quelques instants avec vous, Gauthier Pajonat. Voilà le programme, on est ensemble jusqu'à 11h.
La vie en bleu.
La vie en bleu ce matin avec Jacques Brugier, commercial pour les forges Lyol, avec François Gouvernet pour nous parler de l'entretien des couteaux d'ici quelques instants, et puis des différents types de couteaux. La Maison Gouvernet, spécialiste des arts de la table, qui aura le plaisir de vous offrir également un très beau couteau, un très beau Lyol tout à l'heure, un couteau que vous irez personnalisable en plus.
Voilà.
Hein, François. Voilà.
Quelle chance.
On en reparlera avant 11h. Et avec vous, Gauthier Pajonat, on va lever les filets de sol alors.
Voilà, mais bon, avant de l'élever, on va l'évoquer parce que cette solpe, car comme le disait Kurnonski, en fait de son vrai nom Maurice Saillant, prince des gastronomes du siècle dernier, la sole est le poisson qui se prête au plus grand nombre de préparations culinaires et le fumet obtenu avec ses arêtes est d'une saveur sans égale. Je crois que tout est dit et c'est très précis sur ce noble poisson de saison. Qu'elle soit commune ou franche, la franche la plus recherchée notamment, c'est un vrai délice de finesse. Elle est beaucoup pêchée dans la Manche. Juste une petite parenthèse, j'espère que ça va pas être le bazar avec l'histoire du Brexit, les eaux territoriales, voilà. C'est juste une petite parenthèse que je referme, mais je sais qu'il va y avoir des problèmes de pêche dans les...
C'est fort probable, effectivement.
Tout à fait. Alors à l'achat, il faut plutôt privilégier les sols épaisses, femelles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont de la laitance, les œufs qui sont réutilisables, et puis c'est bon pour les utiliser dans une recette. La peau supérieure claire plutôt que foncée, la peau du dessus étant blanche et la fraîcheur se reconnaît évidemment, une peau brillante et les branchies rouges rosées. Alors ce mets, la sole, était connu depuis les Romains et il a depuis lors toujours enchanté nos cuisiniers. Évidemment on pense à l'emblématique sole meunière, mais aussi la sole à la duglérée, tomate échalote, la sole à la normande, hein, le monde est bien fait, un de ces berceaux que la Normandie pour une recette qui mêle crevettes grises, moules, champignons de Paris, cidre, échalote et bien sûr, un rien de crème fraîche épaisse. Existe aussi la sole bonne femme, sole pochée, la sole au champagne.
La sole bonne femme.
Oui, ah, oui, mais ça c'était avant, quand on pouvait écrire ça, maintenant ça sera interdit. Il n'y avait pas hashtag MeToo. Bon voilà, bon. On va si vous voulez, on va mettre la sole X. Donc il y a toujours cette sole au champagne, la sole diepoise, hein, qui est une variante de la normande, et la sole à la florentine avec des épinards. La sole en goujonnette, c'est très bon. Elle est coupée en lanières. Elle est panée, puis frite et servie avec une bonne sauce tartare. Quant à la sauce la sole mornay, elle est pochée et gratinée au four. Il en existe en tous les cas de multiples autres des recettes autour de ce mets fin et délicat. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous donner une recette, on va dire pour cordon bleu averti.
Ah oui, d'accord, mais c'est quand même...
Ça se mérite la sole. Donc je vais dire, c'est une recette qui est issue du livre de Guillaume Gonnez, qui est le chef des cuisines de l'Élysée. Il vient de publier un très beau livre des plus belles recettes de la gastronomie du Palais de l'Élysée. Et donc, cette recette en est issue. Voilà. Mais en fait, elle est simple à réaliser, je trouve. Et en tous les cas, une chose est sûre, on va se régaler.
Et donc, la saison de la sole, c'est de quand à quand?
On peut dire que c'est en ce moment, c'est une belle période. Maintenant, vous savez, hélas, il y a un peu de tout le temps, mais c'est quand même une période emblématique, la période à partir du 15 février et tout le printemps.
Alors, voilà, cuisiner la sole, des recettes à retrouver avec Gauthier Pajonin. Ce sera d'ici quelques instants maintenant sur France Bleu Auxerre, la suite de La Vie en Bleu. C'est cette émission consacrée au couteau aujourd'hui, aux forges Laguiole avec Jacques Brugier, avec François Gouverneur. Nos invités également sur France Bleu Auxerre, restez avec nous.
La Vie en Bleu, l'émission indispensable.
Pour tout comprendre et tout savoir des couteaux et des forges Laguiole avec Jacques Brugier qui nous accompagne ce matin, François Gouverneur, les arts de la table, la maison Gouverneur à Auxerre, avec Gauthier Pajonin pour la cuisine, et c'est la sole aujourd'hui qui est à l'honneur. On va s'intéresser aux couteaux justement des forges Laguiole. Alors des couteaux pour tout usage finalement, Jacques, que vous nous avez présenté et amené ce matin.
Tout à fait. Alors moi je vous amenais directement quelques pièces de collection. En fait, des couteaux réalisés par notre coutelier d'art Stéphane Rambaud. Ce sont des couteaux de collectionneurs avec des matériaux rares qui requièrent de nombreuses heures de travail. C'est des couteaux qui peuvent quelquefois, je dirais, occuper le coutelier pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Mm-hmm. Donc le prix, je dirais, est la conséquence des matériaux mis en œuvre, mais aussi du temps de travail et de la compétence du coutelier qui l'a réalisé. Là, c'est quelques couteaux de Stéphane Rambaud qui vont, on va dire, de 2000 à 4000 euros pour les pièces qui sont là.
Oui, donc voilà. Avec un morceau de poutrelle de Tour Eiffel, avec, donc vous l'avez dit, avec de l'or massif, avec, c'est vraiment quand même voilà, des matériaux d'exception.
Exactement, en fait. Ouais. Exactement.
La molaire aussi, vous avez expliqué...
molaire de mammouth.
Molaire de mammouth, là.
Voilà, là c'est incroyable. Une molaire de mammouth teintée, en fait, c'est de la molaire qui est récupérée en Sibérie, en face de l'Alaska. Sibérie, et c'est de la molaire qui est, je dirais, utilisée après avoir été stabilisée et qui est montée sur un plaquage en buis pour ce modèle-ci. Ce sont des matériaux bien sûr très onéreux et qui participent bien sûr au prix final du couteau.
Donc oui, alors il y a forcément la lame qui a une importance, et vous l'avez dit, nécessite beaucoup d'opérations pour arriver à ce résultat, mais le manche aussi, il a une fonction importante sur la fonction du couteau, sur la beauté, sur...
Alors bien sûr, le manche, c'est ce qui constitue le couteau. Il faut savoir que les premiers laïoles étaient surtout des couteaux qui réalisaient en bois, en os et rarement sur des matériaux aussi précieux, hein, parce que l'utilité du couteau dans les années 1830 et on va dire globalement au 19e siècle était très très différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on achète plus un couteau par passion, je dirais, que par usage quotidien, comme ça pouvait être le cas, je dirais, dans les fermes chez les paysans. Au 19e siècle, les couteaux de cette époque-là étaient beaucoup moins, on va dire, pointus en termes d'esthétique que ne le sont les couteaux aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous avez des couteaux de tous les jours, bien sûr, mais aussi des couteaux de collection.
Oui, on cherche, François, même en boutique, à la fois la fonctionnalité du couteau, mais aussi l'esthétique.
Voilà, il faut le prendre en main, la beauté. Quelqu'un qui vient acheter un couteau, il va aussi bien vouloir un bon couteau pour l'acier, mais aussi le manche, l'esthétique, la prise en main. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Ouais.
Puis qu'à l'œil, ça plaît,
voilà,
tout de suite.
C'est des fois le coup de foudre, quoi. Le coup de foudre sur un modèle de couteau.
Alors, avec un joli coffret aussi que vous avez devant vous.
Voilà, ça c'est des laguioles de table. Donc en fait, c'est des laguioles, mais qui se ferment pas. La lame est légèrement plus grande que les classiques. Et là, c'est un coffret de 6 où on a 6 bois différents. Donc les manches, c'est en bruyère, bouleau, tuya, amourette, genévrier, pistachier. C'est vraiment un très beau couteau, très bel coffret, très beau coffret.
On ne trouve pas ça partout, à toutes les tables. Hein, ça.
Non, ce coffret-là, non. C'est déjà le haut de gamme.
Comment on se réinvente, justement, qu'est-ce qui va faire la modernité d'un couteau, Jacques Brugier?
Alors, on se réinvente tous les jours, en fait, puisque la Forge de l'Aïeul est une manufacture, entreprise du patrimoine vivant. Donc, c'est une entreprise qui est amenée, je dirais, à réfléchir en permanence à de nouveaux produits, à de nouveaux couteaux, avec soit des réalisations maison, soit des réalisations qui sont confiées à des cabinets de design, comme par exemple avec Philippe Stark, hein, qui est l'architecte de la manufacture, hein, Forge de l'Aïeul. Également Jean-Michel Villemotte, des gens comme Christian Gion, le cabinet Catherine et Bruno Lefebvre, Oraito également, on fait des couteaux pour la Forge de l'Aïeul. Hein. Donc on se réinvente tous les jours par de nouvelles matières, par de nouvelles formes, de nouveaux designs et quelquefois aussi par de nouveaux aciers, bien sûr. Et ne jamais oublier qu'un bon couteau, c'est d'abord un couteau qui coupe, qui tient la coupe et qui s'affûte.
C'est basique, mais c'est important.
Exactement. La première des qualités d'un couteau, bien sûr, c'est son tranchant. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'un acier français haut de gamme, performant et exclusif.
Oui, malgré les produits d'exception, les bois nobles que vous utilisez, la fonction première effectivement d'un couteau, c'est de couper.
Exactement.
Donc c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on voit ces pièces de collection, mais ça reste, ça peut être des couteaux dont on peut avoir l'utilisation aussi et pas seulement exposés dans une vitrine.
Voilà, donc à manipuler avec soin quand on n'a pas l'habitude, parce que ils sont tous très bien aiguisés.
Ah bah justement.
Et on va rester avec vous un instant à l'Aïeul pour évoquer une des plus grandes tables de la gastronomie française. C'est la Maison Bras.
Bien sûr.
Surplombe l'Aïeul et qui est une table qui a été très longtemps 3 étoiles au Michelin et qui est toujours référencée, qui est une grande table notamment avec son gargouillou de légumes, un plat mythique qui a fait le tour de la terre, je pense.
Bien sûr, c'est une grande maison, c'est un voisin, un ami et avec qui on est régulièrement en contact, bien sûr, et qui distribue certains modèles, je dirais, qui sont réalisés spécialement par Forge l'Aïeul pour l'établissement Michel Brasse.
Nous sommes au cœur de l'Aveyron avec vous, Jacques Brugier, ce matin pour découvrir les Forges l'Aïeul pour l'entretien des couteaux. Justement, vous parlez de couteaux bien aiguisés, ça va être votre partie, François Gouverneur, d'ici quelques instants. Maintenant, sans oublier des recettes et une recette autour de la sole.
Vous coupez pas, hein. Attention, hein. Il ne manquerait plus que ça. Sûrement mettre partout dans le studio.
Encore.
Oh.
On est ensemble jusqu'à 11h.
La vie en bleu.
Avec Jacques Brugier pour les Forges l'Aïeul ce matin avec nous, François Gouverneur, les arts de la table, avec vous Gauthier Pajonat, une recette autour de la sole, c'est à suivre. Alors on parlait du bon entretien de son couteau, François justement, comment les entretiens ces couteaux?
Alors c'est assez simple, donc comme on disait, la base première d'un couteau c'est de couper. Donc pour l'entretenir, il y a plusieurs méthodes, d'utiliser soit la petite pierre, des pierres naturelles ou en grains reconstitués. Après, il y a le fusil aussi, et puis ce qu'il existe également maintenant, ce qu'on vend beaucoup, c'est des petits aiguiseurs ou c'est des molettes avec des lames des petites barrettes en carbure de tungstène. Donc ça, c'est très pratique pour ceux qui savent pas utiliser le fusil ou la pierre.
Mais une fois, vous nous avez dit quand même,
faut faire
pas
attention, hein. Faut pas trop appuyer dessus, faut y aller doucement. Moi, je trouve que l'idéal, c'est le fusil. C'est pratique dans une cuisine, à ranger. Il y a un manche, tout.
Et puis, c'est, et puis surtout que ça affûte bien.
Voilà, ça ramène bien, ça affûte bien, un petit coup de temps en temps, et puis c'est reparti.
Alors, de temps en temps, c'est-à-dire?
Bah, si on sert du couteau tous les jours, c'est bien une ou deux fois par semaine, un petit coup, deux, trois coups sur le fusil, et puis voilà, ça entretient.
Alors justement, après, ça dépend aussi de de l'acier, en fait.
Voilà, oui, il y a plusieurs. Bah, la particularité, comme les forges, c'est un acier forgé du T12, donc c'est un acier qui est dur à la fois, mais qui est quand même facile à rafuter, qui tient bien le tranchant et facile à rafuter. Tandis qu'il y a des aciers, des fois, qui sont pas durs, un peu mous, et donc là, ça s'émousse très rapidement.
C'est pour ça que le choix s'est porté sur ce type d'acier, Jacques Brugier.
Alors, lorsque le D12 a été mis au point pour nous par les aciéries Bonpertuis dans l'Isère, l'objectif était de fournir à notre manufacture un acier, on va dire, tout terrain, polyvalent, très homogène, qui soit, je dirais, conforme au cahier des charges de la manufacture Forge de l'Aïeul. Dans Forge de l'Aïeul, il y a forge, on est forgeron, on chauffe les aciers à 1000 degrés, on les forge à 350 tonnes de pression sous presse. Donc on se devait d'avoir un acier particulièrement adapté à ce travail thermique-là. Et le T12 a ceci d'original que il est semi-inox. Il n'est pas extrêmement chargé en chrome, donc il est suffisamment, je dirais, pourvu en chrome pour résister à l'oxydation. Par contre, il est très homogène et à l'affûtage, ce côté homogène fait que on n'a pas de souci particulier, je dirais, pour retrouver de l'aiguisage.
Oui, et puis il ne s'altère pas aussi avec le temps, en fait, très peu.
Voilà, il va résister, je dirais, suffisamment longtemps. Si vous coupez une tomate, une pomme, il ne va pas changer de couleur, par exemple.
La durée de vie d'un couteau, François? Oh, ça dépend de la qualité, bien évidemment.
Oui, mais si on l'entretient, si on ne le met pas au lave-vaisselle, c'est surtout
oui,
ça.
Oui, le lave-vaisselle, c'est l'ennemi du couteau.
Voilà, surtout pas de lave-vaisselle, parce que pour un couteau de poche, si c'est en corne ou même en bois, ça va se fendre, tout ça. L'idéal, c'est juste d'essuyer la lame, comme on dit. Après, un petit coup d'éponge sur la lame, puis l'essuyer le manche, et puis voilà. Surtout pas de lave-vaisselle. Alors après, dans les couteaux de table, la Forge de la Gueule, ils ont même créé des couteaux qui vont au lave-vaisselle, où c'est un manche, c'est du coton qui est compressé et qui est vraiment très très résistant.
D'accord.
C'est la particularité de un peu des Forges de la Gueule. Ouais, d'avoir
dans vos entreprises, il faut toujours un laboratoire de recherche et développement pour prévoir comme ça toutes ces innovations.
Exactement, on avance tout le temps. On avance tout le temps. On a, au dernier salon ambienté de Francfort, présenté une nouvelle gamme de couteaux qui s'appelle Opalescence, qui est une gamme réalisée avec un matériau complètement dédié à l'usage en machine à laver. Donc c'est un couteau qui est préparé, je dirais poli sur toutes les surfaces, qui est préparé avant le montage avec un matériau spécifique pour garantir un usage quotidien et un lavage en machine.
Alors vous nous avez amené une nouveauté également.
Oui, je vous ai amené un petit couteau. C'est la dernière création d'un designer avec lequel on travaille beaucoup depuis longtemps, qui est Christian Gion, qui est un designer sur Paris. C'est un petit couteau qui s'appelle Flat. C'est un 9 cm en triple platine. C'est-à-dire qu'en fait, le manche du couteau est réalisé de chaque côté de deux plaquettes de platine en inox avec au milieu une platine en laiton. Ça donne un petit peu d'épaisseur au couteau, mais ça reste un couteau plat de 9 cm, léger, facile à prendre en poche, qui ne pèse pas très lourd et qui est, je dirais, suffisant pour un usage de tous les jours. Si vous avez un sandwich à couper, un saucisson à couper pour déjeuner le midi, vous avez un couteau sous la main qui prend
ou
pas...
Ou des tripes ou aveyronnais, évidemment.
Pourquoi pas hein. Exactement.
Bien sûr. Bah oui, là, vous avez l'eau à la bouche. La bousillette. Oui, bien sûr.
Dans les recettes régionales.
Tout à fait.
Exactement. C'est vraiment un plat typiquement aveyronnais.
Le couteau, c'est un choix personnel, hein, François, quand on décide d'avoir son couteau, son compagnon du quotidien, ça reste un choix.
C'est vraiment un choix personnel, un peu un coup de cœur. Quoi. Mmh. Ouais. Les gens, quand ils viennent choisir un couteau, souvent, on en a pas mal, ils regardent tout. Et souvent, c'est un coup de cœur. Ils flashent sur un modèle.
C'est un accessoire quand même essentiellement masculin ou les femmes s'y mettent aussi?
Oh, les femmes aussi, ouais, ils aiment bien. Dans les petits couteaux, comme le flat, là, ça tient pas de place dans un sac à main, c'est compact. Même les dames aussi, elles aiment bien avoir leur petit couteau dans le sac à main. Quoi.
Ouais, Jacques Brugier, oui. Vous faites
oui,
aussi une gamme un peu plus féminine, un peu plus...
Je confirme, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des a priori par rapport au couteau et à penser que c'est vraiment un attribut masculin. il y a de plus en plus de dames qui achètent des couteaux, et souvent des couteaux un petit peu, je dirais, différents des modèles pour hommes. C'est-à-dire qu'on est plus sur du couteau qui va faire 9, 11 cm de longueur de manche, avec quelquefois des matériaux un peu différents, comme du bois de rose. À une époque, on avait fait également des modèles en pétales de rose. C'était vraiment des couteaux, je dirais, dédiés à la clientèle féminine.
Restez avec nous sur France Bleu Auxerre, la vie en bleu continue. On va passer à la cuisine avec vous, Gauthier Pajona. Vous avez jeté votre dévolu sur lequel de ces couteaux?
Moi, j'aime bien les technologies, et je trouve que le petit dernier, là, je trouve fin.
C'est votre côté féminin qui parle.
Ça doit être ça. On a tous un côté féminin.
Exactement, il faut l'assumer.
C'est atypique comme forme. On n'est pas habitué. L'aïeul, on voit bien toujours un peu la même chose. Et ça, c'est
la nouveauté, c'est 2020.
Ouais, ouais. Ouais. Vive la nouveauté.
Votre couteau, l'aïeul personnalisé, a gagné avant 11h, 03 86 52 23 23, grâce à François Gouverneur, les arts de la table à l'honneur ce matin, encore pendant un bon quart d'heure sur France Bleu Auxerre.
La vie en bleu, c'est aussi sur Internet.
Avec autour de la table ce matin, Jacques Brugier pour les forges de l'aïeul avec François Gouverneur, la maison Gouverneur, spécialiste des arts de la table, et Gauthier Pajona, la cuisine. Aujourd'hui, c'est la sole qui est à l'honneur.
Absolument, avec une très jolie recette. Alors c'est un peu pour le cordon bleu averti, mais je sais qu'il y en a nombreux à nous écouter sur France Bleu Auxerre. Donc c'est extrait d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le cuisinier de la République française » qui a été écrit par Guillaume Gomez, qui est le chef meilleur ouvrier de France du Palais de l'Élysée. Cette recette, elle s'appelle « Filet de sole de petite pêche à l'aneth doux, mousseline de fenouil au jus de coquillage ». Voilà.
Bon, on y est là.
Eh ben on y va, c'est parti. Alors pour 6 personnes, ils disent 1h45 de préparation, ça me paraît un peu beaucoup, mais bon, voilà, ça me paraît un peu excessif. Cuisson 50 minutes. Alors pour cela, il vous faut 3 soles de 6 à 700 grammes, donc ces belles soles un peu épaisses qu'on évoquait, 250 grammes de beurre demi-sel de Normandie, hein, où, voilà, qui est une très belle région à beurre, 1 litre de crème, une botte d'aneth, garniture aromatique pour faire un bouillon, carottes, oignons, céleri, éventuellement un peu de poireau. 4 couteaux, non pas ceux de la maison Gouverneur, mais des couteaux qui sont dans le
salon.
Des coquillages. 250 grammes de moule, 1 kilo de fenouil, sel et piment d'Espelette. Bon, eux, ils mettent une barquette de fleurs de fenouil. Bon, ça, c'est un petit peu... si ça vous plaît. Pour préparer la sole, on va habiller la sole. Alors, habiller la sole, en fait, ça veut dire... C'est plutôt la déshabiller. Ça veut dire lever les filets et les réserver. Hein. On débarrasse la queue, ses nageoires caudales, ses barbilles, sa peau blanche, sa peau grise, avant de lever les 4 filets. Et ça, le poissonnier peut s'en charger.
D'accord.
Hein? En revanche, le poissonnier, il peut donc vous lever vos filets, vous dites, je récupère les filets, et, très important, les arêtes.
D'accord.
Hein? Le reste, comme on jette ça, le poissonnier peut vous le faire. Donc ça fait déjà un boulot en moins que d'habiller ses soles. Ensuite, puisqu'on a récupéré nos arêtes, on les casse, les arêtes de sol, et on les plonge dans l'eau glacée. Ensuite, assez simple, on va préparer une farce avec l'extrémité des filets de sole, puisque les parties du bout, hein, vous mettez cette partie du bout avec la crème, le beurre et l'aneth, et on va farcir les filets par deux au milieu, comme un sandwich, en les mettant tête bêche. Tout ça, c'est assez simple à faire, en fait. Hein.
Donc on va se retrouver avec deux filets, en fait, deux sandwichs.
Voilà, ouais, c'est ça, absolument. Les filets, on va les mettre en petite ballotine, j'allais vous dire dans un film cuisson, et on va les cuire dans une eau frémissante à 10 minutes. Attention, on les surveille bien, hein, parce que c'est fragile, la sole. Hein. Ensuite, vous laissez vos soles, une fois cuites, sur le côté du feu. En matière de cuisson, on va préparer un jus de sole avec les arêtes et la garniture aromatique. On va mouiller juste à hauteur et cuire 15 minutes. Tout ça, c'est simple. On va bien nettoyer nos coquillages, les dessabler, les mettre en cuisson et on les réserve. Et puis, on va réaliser notre mousseline de fenouil. On cuit le fenouil dans l'eau à hauteur. Toujours pareil, on met pas trop d'eau. On mixe, on assaisonne et on va monter ensuite avec l'eau de cuisson des coquillages. Ça doit être bon, ça. Hein, la mousseline de fenouil avec l'eau des coquillages. Et puis, nous allons terminer par le dressage. On va finaliser évidemment nos assaisonnements, on goûte tout avant de dresser. On va dresser notre filet de sole et la mousseline dans une assiette creuse et chaude. Et on va finir le dressage avec le jus, les coquillages et si possible les fleurs de fenouil, mais ça c'est vraiment pas obligé. En tous les cas, vous allez vous régaler. Hein. Une belle recette de ce...
Quand est-ce que vous l'essayez?
Dans pas longtemps, parce que je suis tombé dessus hier en préparant l'émission. Cuisinier de la République française, en plus Guillaume Gomez, le chef d'Élysée, c'est un garçon très sympathique, très accessible. Et franchement, vous avez des belles recettes qui honorent les autres que la République peut recevoir au Palais de l'Élysée.
Si on peut être reçu, on pourra bien manger.
Moi, j'y suis jamais allé. Je connais un bistrot qui est à côté, c'est le Griffonnier rue des
Saussets.
C'est
pas pareil. À côté,
mais c'est pas pareil. Quand même. Puis il fait pas de sol comme ça.
Ha ha ha. Donc c'est à retrouver pour vous hein, dans ce livre, si vous voulez vous y essayer, Les cuisiniers de la République française, a signé Guillaume Gomez, ce filet de sol à l'aneth doux, mousseline de fenouil et au jus de coquillage. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous retrouverez tous en podcast sur le site internet francebleu.fr. Dernière partie de l'émission avec Jacques Brugier et François Gouverneur. Un beau couteau à gagner personnalisé. Et on va parler également de ce moulin à poivre en deux mots dont on n'a pas parlé encore d'ici quelques instants. Et puis on va donner la parole à Romain aussi, qui est avec nous ce matin. Il a 9 ans, il participe à l'émission, il a posé plein de questions. Il sera avec nous pour ces dernières minutes en votre compagnie. À tout de suite.
La vie en bleu.
Le temps de conclure notre émission ce matin avec François Gouverneur. Quel plaisir de vous offrir un très beau couteau Forge de l'Aïeul. Alors dites-nous en plus sur ce couteau.
Alors c'est donc un petit couteau. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est la matière, le manche, c'est du tissu qui est coton compressé, qui est vraiment très très solide. Et donc l'acier, c'est de l'acier T12, l'acier qui est exclusif à la Forge de l'Aïeul.
Donc ce très beau cadeau, nous avons le plaisir de vous l'offrir. Pas de questions pour vous, 03 86 52 23 23 seulement pour remporter ce couteau personnalisé ce matin que vous avez le plaisir de nous offrir. Jacques Brugier, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, nous faire découvrir les forges l'Aïeul, nous raconter l'histoire de ce savoir-faire et nous avoir amené alors des couteaux d'exception, mais aussi des moulins à poivre.
Exactement, déjà c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Ensuite, le moulin à poivre que vous avez devant vous est un moulin issu d'un mécanisme français, Marlux, société basée en région parisienne. Et c'est un moulin en fait qui est gainé de cuir de vache d'Aubrac, qui est en cuir noir pour le moulin à poivre et en cuir gris pour le moulin à sel. Donc il y a deux modèles, poivre et sel, et les deux sont montés en fait avec une corne de race Aubrac ou Salaire. Selon, je dirais, les disponibilités des cornes, hein, parce sûr. Que ce sont des petits cheptels, la race Aubrac. Ce sont des cornes qui sont bien sûr retravaillées, polies, pour permettre ensuite d'avoir un montage, je dirais, impeccable sur le moulin.
Et donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre travail que vous faites avec cœur et passion. Au 03 86 52 23 23, nous aurons notre gagnant d'ici quelques instants. Gauthier Pajona.
Eh bien, écoutez, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver au début du printemps, puisque la loi étant ainsi faite, tout candidat aux élections municipales présent à l'antenne doit s'en abstenir pendant la campagne électorale qui commence dès demain. Donc je vous souhaite une belle fin d'hiver et vous retrouverez avec plaisir au début du printemps.
Et surtout, où que vous soyez, dans quelle commune que vous soyez, allez voter, mobilisez-vous également, les municipales. On le rappelle, c'est les 15 et le 22 mars.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous accompagner, vous ne serez pas loin de toute façon. Pour quelques bons plans et quelques gourmandises.
Il y a des chances.
Ça c'est certain. Bon ben les vacances, c'est pour moi également aussi, c'est Guillaume Pierre qui aura l'immense honneur, la joie de vous accompagner.
Mais oui, notre collègue de Dijon.
La semaine prochaine, Benoît Chaumeau, demain à partir de 9h. Un petit coucou également et un remerciement à Jacques, Michel, Quentin et Romain qui sont venus assister à cette émission. Alors Romain, bonjour, c'est toi le plus courageux et qui va parler.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Alors t'en as pris plein sur les couteaux, hein?
Oui.
Et attention, qu'est-ce que ça fait un couteau, ça?
Coupe.
Voilà. Bravo. Faut faire attention, effectivement.
Et c'est ta fête demain, alors bonne fête.
Bon, t'as passé un bon moment?
Oui.
Tu t'es bien amusé?
Oui.
Ça fait partie du programme des vacances. Qu'est-ce que tu vas faire avec papy et mamie?
On va rentrer chez nous vendredi.
Ouais. Donc t'habites en Normandie?
Oui. Après, je sais pas ce qu'on va faire pendant le week-end.
Bon, en tout cas, en profiter. Je suis sûre qu'ils ont plein d'idées pour vous occuper avec ton frère. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui. Puis si vous aussi, vous voulez venir avec la famille, les enfants, les petits-enfants, 03 86 52 23 23 pour découvrir l'envers du décor. La vie en bleu, c'est tous les jours entre 9h et 11h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
9h-11h, le magazine indispensable.